Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de la bande à Baggio. Ça y est, on commence la nouvelle saison et mine de, ça fait maintenant, ça va faire la quatrième saison déjà. Avec moi, j'ai Gabi. Salut Gabi.
Salut Nico et salut tout le monde.
Donc quatrième saison, hein, on a commencé, c'était fin 2016 hein, pour l'Euro et puis nous voici en, allez, à l'aube de l'année 2020. Et écoutez, on est toujours, on a toujours autant de plaisir de vous retrouver. C'est un podcast de reprise, hein, il va pas durer bien longtemps. On va parler un petit peu de la Ligue 1 et puis des transferts qui se sont passés cet été. Et, Dieu sait qu'il y en a eu quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de fausses pistes, mais il y a eu beaucoup de transferts quand même, des gros transferts. Et ça, on va en parler, on va en parlementer au moins pendant, allez, maximum une heure. Hein, ce sera peut-être un petit peu moins. Écoute Gabi, est-ce que t'es content de retrouver notre bonne chère Ligue 1 ?
Personnellement, ouais, non, mais sans plaisanter, hein, la Ligue 1, c'est toujours agréable de retrouver les clubs français, je veux dire, pour une nouvelle saison, parce que finalement, tu sais jamais à quoi t'attendre, hein, y a pas de... La seule vérité qu'on a en France, c'est le PSG qui joue le titre et qui est pratiquement là d'entrée, mais on espère toujours voir une équipe rivaliser avec eux. Une année, ça a été Monaco, et moi, je pense que cette année, Lyon a vraiment ses chances. Si Lyon arrive à se concentrer sur le championnat et pas essayer forcément de jouer des coups en Champions League, je pense que Lyon, ils peuvent peut-être décrocher un titre majeur cette année en France. Bien sûr, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, c'est un peu moins difficile. Mais le championnat, je pense que le PSG, cette année, n'a pas l'équipe... aussi impressionnante que les années d'avant, on régresse un tout petit peu chaque année, petit à petit. Et je pense que Lyon, ils ont fait une démonstration contre Angers, par exemple, en match d'ouverture de cette deuxième journée. Ouais. Il y a eu un 6-0 impressionnant. Après, Angers, pour toi, qu'est-ce que ça vaut, Angers ?
Bah, Angers, bon, c'est pas non plus... c'est une équipe de milieu de tableau, mais je pensais pas qu'Angers allait s'en prendre 6, maximum 3, comme chaque année. Lyon arrive toujours à faire des entames de championnat assez impressionnantes, mais là, je crois que c'est un niveau au-dessus de l'année dernière. Ils ont battu Monaco la semaine dernière, 3-0, c'est pas rien non plus. Même un Monaco malade, ça reste Monaco. Là, Monaco, ils ont quand même des quelques nouveaux joueurs, mais bon, de toute façon, on va en reparler avec les transferts qu'il y a eu cet été. Mais c'est vrai que Lyon, pour moi, peut, ouais, je suis de ton avis, hein, peut rivaliser le PSG. Je vois pas d'autres équipes pour le moment rivaliser face à Paris. Et là, on voit Lyon démarrer, mais Tony Truant, là, ils ont déjà 9 buts. 9 buts de marqués, 0 pris. C'est que la deuxième journée, ils peuvent dégringoler plus tard, mais pour le moment, ils font quelque chose de bien. Et on peut parler du transfert chez les Lyonnais. Ils ont récupéré des joueurs qui sont... c'est pas des grandes stars, mais peut-être que c'est des joueurs qui sont faits tailler pour la Ligue 1 et qui sont prêts à rivaliser contre le PSG, quoi. Y a notamment qui t'a un petit peu tapé à l'œil en transfert à Lyon.
Alors, ouais. Alors Lyon, ils ont recruté Rana Adelaide, un joueur qui vient justement d'Angers.
Ça, c'est tout frais, ça.
C'est tout frais, c'est un espoir pour l'équipe de France aussi. Et c'est un joueur qui a été transféré quand même 25 millions d'euros.
Ouais, ouais, ouais. C'est fou, hein.
C'est énorme. Hein. Alors, il y a une chose qui est bien, si tu te souviens d'Olas, ce qu'il faisait quand il dominait le championnat de 2002 à 2010 avec son équipe, c'est que souvent il achetait français. Il achetait dans les clubs français. Ça permettait d'avoir justement aux autres clubs de pouvoir racheter derrière et pas forcément distribuer l'argent à l'étranger comme fait le PSG. Souvent, ils achètent à l'étranger le PSG.
Oui, oui, oui.
Et malheureusement, les clubs français, bah, ils s'appauvrissent de plus en plus parce qu'il y a une différence qui est énorme. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter d'autres joueurs, eux. Et là, ce qui est bien avec Ola, c'est qu'une nouvelle fois, bah, ils redistribuent l'argent dans le football français en achetant Rennes Adelaide. Il a acheté également Koné, qui vient de Lille. Mmh. Pour 9 millions d'euros. Apparemment, il a acheté Tataru Sanou, qui vient de Nantes.
Ouais, Tataru Sanou, le gardien. Bah, alors, il y a eu une grosse polémique, parce qu'en fait, Tataru Sanou venait à Lyon pour être gardien numéro 1, mais finalement, il va terminer gardien remplaçant. Oui. Et je pense que déjà, il se mord un petit peu les doigts d'avoir signé à Lyon, quoi.
Mmh. Ouais, c'était un très bon gardien à Nantes, qui était titulaire indiscutable. Et Rouaz, qui était en... Je sais pas alors si c'était en discussion ou si c'était seulement des rumeurs, mais le Paris Saint-Germain cherchait un gardien pour remplacer Trapp, qui voulait à tout prix donner à Francfort en comment dire, après leur prêt, le faire acheter à Francfort. Malheureusement, Francfort a pas trouvé les fonds pour mettre la somme demandée par le PSG. Je crois que c'était 8 millions d'euros. Mmh. C'était trop. Francfort trouvait que c'était trop. Donc, je veux bien la limite, mais finalement, le PSG n'a pas pu se débarrasser de son deuxième gardien. Et s'il y avait eu discussion ou pas, on saura jamais finalement. Et ben, Lopez restera à Lyon et donc il va conserver sa place de gardien titulaire. Et sincèrement, hein, cette année, je pense pas que, voilà, déjà à Lyon, en mettant 9 buts sur les deux matchs, les deux premiers matchs de la saison, je pense pas que Lopez sera vraiment inquiété en défense par rapport à l'année dernière. Parce que d'un autre côté, Lyon, ils ont vendu Ferland Mendy au Real Madrid pour 48 millions d'euros.
Oui.
C'est une somme assez astronomique aussi.
C'est énorme, hein, c'est énorme.
Énorme. Nabil Fekir qui est parti au Betis.
Alors là, c'est une incompréhension pour moi. Il y a l'année dernière, il pouvait partir à Liverpool pour plus de 25 millions, je crois, peut-être un peu plus. Et là, il se retrouve au Betis Séville pour aller à peine 20 millions d'euros. Alors là, moi, je comprends pas trop la motivation de Nabil Fekir. Le Betis Séville, c'est pas non plus un... Bon, ce fut un bon club... De Liga dans les années 90, mais je trouve qu'après ils ont un petit peu régressé. Et si tu veux continuer une bonne carrière, je ne pense pas que ce soit Betis Séville que tu puisses autant t'épanouir, quoi. Alors je pense que Olas lui avait dit on ne te transfère pas cette année à Liverpool, l'année prochaine t'auras carte blanche pour partir. Malheureusement, je pense qu'il a pas eu beaucoup d'offres. Et il est parti à Betis un peu, je pense, à contre-cœur, quoi.
Ouais, on est d'accord sur ça. En plus, le Betis, c'est une équipe qui a perdu contre Rennes en
Europa League
la saison passée. Et je suis pas certain que... Même si c'est un projet pour le Betis de reconstruire une équipe compétitive et équivalente au FC Séville, je pense qu'ils en sont loin encore. On a vu qu'il y avait une grosse différence de niveau avec Rennes déjà. Il y avait trop d'errances défensives, etc. Je ne suis pas certain que Nabil Fekir finisse la saison au Betis. Et je le vois peut-être partir en hiver dans un autre club, je ne sais pas. Il va rater une vitrine pour la suite de sa carrière. Quand tu fais la Champions League, automatiquement, tu es un joueur en vue. Et quand tu as fait un bon match contre Manchester City l'année passée, je ne comprends pas que tu atterrisses au Betis. Hein.
Voilà, mais ça a été quand même un gros coup de tonnerre, parce qu'on pensait qu'il aurait pu partir en Angleterre. De toute façon, je ne voyais pas trop d'autres endroits où il pouvait partir. Fekir, moi, je le voyais bien en Angleterre. Bon, ben voilà, hein, et c'est comme ça.
Il y a un autre joueur qui vient de Lille qu'on a oublié, c'est
Thiago Mendes, bien sûr.
Voilà, 26 millions d'euros, et ça, c'est un gros transfert aussi. Et Ola, ça a quand même donné plus de 60 millions au club français cette année. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui soient capables de faire ça. Mmh. Et c'est quand même... rien que pour ça, on peut saluer Olas.
Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a réussi à faire quelque chose de bien cette année. Il a surtout, et ça, on en parlait hors antenne, de devoir de prendre des anciens joueurs dans le club pour essayer d'encadrer toute l'équipe. Il a pris Juninho en directeur sportif, et ça, pour moi, c'est quelque chose de très bien, parce que Juninho, il connaît parfaitement le club, il sait comment ça fonctionne. Je pense que si tous les clubs français faisaient ce que fait Lyon, je pense que il y aurait peut-être les clubs français, il y aurait plus d'équilibre et les clubs français marcheraient peut-être mieux en Coupe d'Europe. Voilà, parce que on a quelqu'un qui connaît le club, il sait comment fonctionne le club. Je vais revenir à Marseille. Si Marseille faisait ça en prenant un ancien qui est resté au moins plus de 5 ans à Marseille, qui sait comment fonctionne Marseille, je pense que Marseille pourrait, d'une, aller mieux en Ligue 1, peut-être, et puis peut-être pouvoir se qualifier après pour la Ligue des Champions. Ce que fait Lyon, c'est une très très bonne chose, et je ne serais pas étonné de voir Lyon faire un très très bon championnat cette année. Je ne dis pas de battre le PSG, c'est encore trop tôt. D'être champion cette année, mais au moins dans les 2-3 ans qui vont arriver, Lyon va passer une marche au-dessus, je pense.
Oui, oui, ils sont clairement en phase de progression par rapport à l'année précédente. Il y a juste Nabil Fekir qui a eu vraiment une perte pour le club, mais il a été remplacé par Thiago Mendes et d'autres joueurs, donc je vois pas finalement ça a été compensé son départ. Et Lyon qui bat déjà le PSG à domicile, ils n'ont plus qu'à battre les petites équipes où là ils perdent des points, souvent comme à l'époque ils perdaient des points contre Troyes, Angers, enfin toutes ces petites équipes. Et là cette année, bon, ils ont l'air d'être partis tambour battant et faudra vraiment les suivre jusqu'à l'hiver, hein, jusqu'à Noël pour voir la trêve où ils sont placés.
On a oublié Ndombele qui a été, je sais pas, t'en as pas parlé, hein, qui a été transféré à Tottenham pour 60 millions aussi. Hein.
Et Ndombele qui a réussi ses débuts avec Tottenham en marquant un but. Et c'est pareil, ça c'est une grosse perte pour Lyon parce qu'au milieu de terrain, défensivement, ils faisaient le travail. Hein. 60 millions d'euros, ils l'ont vendu et...
C'est beaucoup quand même, hein. Enfin, Ndombele, c'est quand même beaucoup, quoi. Ça reste un jeune joueur quand même, hein.
Mais je pense qu'il est beau. Je pense qu'il est beau parce que, tu sais, il y a un gage de qualité quand même à l'étranger qui fait que les joueurs français sont assez reconnus dans la formation, etc. Et l'expérience, parce que souvent les gros clubs français jouent la Champions League. Donc, quand tu prends un joueur à 48 ou 60, comme Ndombele, eh ben, ce sont des joueurs qui ont vécu quand même des gros matchs face au Barça, face à Manchester, etc. Et ils n'arrivent pas, je veux dire, comme Nicolas Pépé, malheureusement, tu vois, Nicolas Pépé qui est parti à Arsenal.
Grosse perte pour Lille aussi, ouais.
Grosse perte pour Lille, mais je pense qu'il a raté la saison où il aurait pu se révéler en Champions League avec Lille. Mmh. Et partir à Arsenal, où il fait ses deux premiers matchs sur le banc de touche avec Unai
Emery. C'est incompréhensible. Mais c'est vraiment incompréhensible. Pourquoi payer aussi cher un joueur 80 millions, ça fait partie des plus gros transferts d'Arsenal, et il le fait pas jouer, il le met sur le banc, c'est incompréhensible.
Bah, c'est Unai Emery, hein.
Voilà.
Qui a joué aujourd'hui contre Burnley avec Arsenal, un match mais frileux à un point, c'est la copie conforme de ce que faisait le PSG avec Unai Emery, c'est-à-dire qu'il est stressé sur le banc de touche, il envoie des ordres dans tous les sens. Les joueurs, ils pensent qu'ils le regardent, ils savent pas trop ce qu'il faut faire. Et on se retrouve avec des phases de jeu avec Arsenal où il y a des flottements.
Mais rappelle-toi l'année dernière, hein, la première partie saison d'Arsenal, elle était nulle. C'était nul, tu vois, il y a un match d'Arsenal, c'était pourri. Petit à petit, ils sont un petit peu améliorés. Et ils sont arrivés jusqu'en finale, hein, c'est ça, de l'Europa League l'année dernière, hein,
oui,
c'est
ils
ça
sont
ouais, ouais, ils sont arrivés en finale. Même des fois, tu te demandes comment ils ont pu arriver en finale, parce que le match contre Rennes, normalement, j'ai encore un peu à travers de la gorge ce match-là. Oui, normalement, ce match-là, Rennes devait le gagner, et ils sont passés à...
Voilà. Il y avait un but qui devait faire en sorte qu'avec le but à l'extérieur, il passait.
Ouais.
Mais ils n'ont jamais pu le mettre, hein, l'arbitrage a été trop défaut.
Mais voilà, Arsenal, c'est légèrement amélioré en fin de saison, donc voilà, ça leur a permis de faire un très bon parcours en Coupe d'Europe. Mais voilà, ils achètent Nicolas Pépé, c'est bien, bravo, belle acquisition. Mais maintenant, il va falloir le faire jouer. À quoi ça sert de payer autant pour pas le faire jouer, quoi?
Ouais, ça c'est toute la complexité de l'esprit de Unai Emery. Hein. Je pense qu'il a envie de faire découvrir petit à petit la première ligue à Pépé, mais Pépé, je pense que lui, il a tellement faim que...
Bah, il a envie de jouer, hein, c'est tout simplement.
Et, ouais, il a envie de jouer. Hein. Alors, faut espérer que ça va durer que un ou deux matchs, hein, cette histoire, et que finalement, au troisième, il y ait une petite titularisation à la place d'Aubameyang ou de Lacazette, il y a moyen qu'il joue, je pense.
Non, c'est possible.
Aubameyang, il a fait quand même tous les matchs l'année dernière. Il faudrait faire attention à ne pas surcharger certains joueurs pour le début. Parce qu'on a vu, voilà, on va en venir à lui, c'est Eden Hazard. Eden Hazard qui a...
Oh là là.
C'est... Moi, je trouve ça honteux quand même. Parce que,
c'est un manque de respect. Ça,
Tu t'as été pris par le plus grand club du monde, entre guillemets, avec peut-être un ou deux autres, et tu arrives, t'es pas en condition physique pour commencer la saison, tu te blesses.
Bah écoute, moi je me ça me fait penser à quelqu'un, c'était Ludovic Juli, alors on l'aime ou on l'aime pas, bon, qui était certes pas du même acabit qu'Eden Hazard, mais qui a quand même été un très bon joueur de football, qui au moment où il est transféré au Barça, il a le choix de partir en vacances avec sa famille, et lui il décide de rester à Barcelone pour retrouver une condition physique décente pour pouvoir jouer avec le Barça en début de saison. Ouais. Ça, je sais même pas si maintenant, t'arriverais à voir quelqu'un, un jeune, faire ça. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, bah, les mecs, allez, on profite des vacances, ils reviennent avec avec un bide énorme, ils ont bouffé comme des porcs pendant 2 mois, et puis bah, après, ils ont dû des peines à perdre du poids, puis ah bah c'est bizarre, j'arrive pas à jouer comme avant. Bah, bien sûr, faut rester sérieux du début à la fin. T'as une carrière qui va durer 10-15 ans, et ben essaye d'être professionnel jusqu'au bout. T'auras toute ta deuxième partie de ta vie pour te faire plaisir. D'ailleurs, il y a Miroslav Klose, il n'y a pas longtemps, qui a dit « J'ai arrêté ma carrière de footballeur parce que j'en avais marre. Les jeunes de maintenant n'ont plus du tout la même conscience que nous avant. Nous, avant, on s'entraînait pour être meilleurs. On faisait tout pour devenir meilleurs. Maintenant, les jeunes, ils en ont rien à foutre de ça, quoi. Mais ça manque de respect de la part d'Eden Hazard. Tu peux pas revenir au Real avec un double... avec avec une brioche, quoi. Je suis désolé, c'est honteux, ça. Et voilà, de toute façon, à force de faire trop d'excès, eh ben, on voit ce qui se passe.
Parce que finalement, le Real, cette année, après leur match amical contre l'Atlético, ils se prennent 7 buts à 3.
Ce truc de fou.
Ouais, mais j'ai pas regardé le match, donc je pourrais même pas te dire comment sont arrivés les buts, mais j'imagine très bien ce match amical où il fait très chaud en été, et les buts s'enchaînent quand t'es pas prêt physiquement, et je pense que le Real, voilà, c'est exactement ça, hein, la préparation physique avec une équipe qui était vraiment bancale, on savait pas qui allait être pris, si Gareth Bale allait rester, si Zidane a voulu un peu faire le ménage en arrivant, mais il a jamais pu pour le moment faire le transfert de Pogba qu'il voulait, parce que il devait à tout prix libérer 2 joueurs pour acheter Pogba, et Gareth Bale et James Rodriguez sont toujours là. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt de voir Pogba au Real Madrid, et
je pense pas que ce soit pour cette année, moi. Je pense pas.
Ça fait cher, parce que là, le problème du fair play financier avec le Real et le Barça, même le Barça qui a essayé quand même de vendre 4 ou 5 joueurs pour essayer de recruter Neymar.
Bah d'ailleurs, Coutinho est parti au Bayern.
Ouais, hier soir, ouais. Ils ont annoncé ça avant le match de Bundesliga entre le Bayern et l'Hertha Berlin. Qui partait en prêt sans option d'achat obligatoire, donc le Bayern, je crois, va s'occuper du salaire, ou le Real, je sais plus, enfin, bon, finalement c'est un prêt, donc il n'y a pas de fonds qui vont retourner du côté du Barça, et l'argent qui aurait pu servir pour acheter Neymar ou je ne sais qui en plus, bah, il n'y en aura pas pour le moment. La seule option d'achat qui puisse avoir avec Neymar, ça serait que le PSG demande Rakitic chez Semedo. Mais le problème, c'est que Semedo est intransférable pour le Barça, parce que quand tu vois leur défense, il n'y a pas de remplaçant. Et la deuxième chose, c'est que pour le PSG, prendre 2 joueurs au lieu de un Neymar, ça va leur coûter plus cher en salaire, apparemment. En frais, etc., les taxes, etc.
Il y a Rakitic qui a dit que ça n'intéressait pas de jouer à Paris. C'est ce que j'ai lu récemment. Mais alors, est-ce que toi, tu vois par exemple Neymar... Alors, tu le vois où, Neymar? Tu le vois rester ou tu le vois partir?
Par rapport à mon expérience et tous les joueurs que j'ai vu faire des conflits de ce genre, comme toi, tu as pu voir certains joueurs à l'OM faire ce genre de conflit. Sincèrement, au pire... ça va jusqu'à l'hiver, c'est-à-dire que le joueur est mis sur le côté, et en hiver on trouve une porte de sortie, Mais
pour Neymar, ça va être compliqué l'hiver, parce que qui va vouloir débourser autant l'hiver? Alors, il peut y avoir, j'en parlais avec un pote hier, il y a peut-être une solution, c'est qu'au lieu qu'il parte à Barcelone, pourquoi pas Neymar partir au Barça, et puis qu'il y ait un joueur du Barça qui est indésirable, comme Ramos ou Bale, qui partent à Paris.
Au Real, tu veux dire, au
Au
Real.
Real, pardon, oui.
Ouais.
Et pourquoi il n'y aurait pas un échange avec un peu d'argent pour...
Ben, je pense que c'est possible parce que en général, tu sais, quand ce sont des vraies transactions en coulisses, on n'en parle pas. Et donc, je pense que c'est possible que ça se joue avec ce genre de joueur. Moi, je vois bien Gareth Bale arriver à Paris un jour sans qu'on n'en parle pas. Enfin, sans qu'on en parle, pardon. Par contre, à chaque fois, tous les jours, quand tu vois, oui, tel ou tel joueur a été proposé,
Ah
etc.,
ouais, ça c'est...
là, tu sais que ce sont les agents qui ont fait des déclarations à la presse et qu'il n'y a pas de discussion. Finalement, c'est des appels du pied pour qu'il se passe des choses. Comme on a vu pendant, sans mentir, pendant 10 jours, on a vu des propositions factices
Bien
sur les
sûr.
réseaux sociaux avec Neymar contre 2-3 joueurs plus un cocktail. Non, mais bon, non, mais à la fin, tu te demandais d'où ça sortait ces trucs-là.
Ça va être pire qu'en NBA. Quand ils ont voulu acheter, je ne m'en rappelle plus quel joueur, et qu'ils ont proposé presque toute l'équipe à la place, ça va faire pareil, quoi.
Ah, mais je trouve ça ridicule parce que quand tu vois le premier match du Barça contre Bilbao à l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas au milieu de terrain Coutinho est parti, mais Coutinho ne jouait pas dans une position de meneur de jeu au Barça. Il faut dire que Coutinho jouait sur un côté et le Barça ne joue pas avec un meneur. On passe la balle à Messi à partir des milieux défensifs et c'est Messi qui crée le
C'est
jeu, un
ça.
peu comme faisait un Djorkaeff à une époque, il se baladait partout. Il n'y a pas de meneur au Barça. Il joue en contre, c'est des contres rapides, etc. Coutinho a été tellement mal utilisé qu'il a perdu toute sa valeur financière, bien sûr. Ils ont eu du mal à le refourguer, mais je pense que si le PSG avait été malin, Coutinho, c'était vraiment le joueur sur lequel il fallait se pencher. Parce qu'au PSG, à part Verratti qui crée un peu le jeu mais qui a du mal sur les longs enchaînements en grande distance pour porter la balle comme faisait Pastore, là on n'a pas ça à Paris. Enfin, on a Neymar, mais bon, Neymar apparemment il veut partir. Donc, mais au Barça, le gros souci c'est la défense au Barça, c'est que ça, y a pas de remplaçant en défense et je comprends pas qu'on veuille à tout prix racheter un milieu de terrain en vendant tout le milieu de terrain sauf Busquets pour se racheter Neymar. C'est d'un ridicule. Et moi je suis ami sur un réseau social avec un socio du Barça depuis plusieurs années avec qui je discute parfois. Bon, on a été un peu en froid avec l'histoire du PSG Barça parce que moi je l'avais chambré à l'aller et au retour. Bon, il a rien dit, mais ça voulait tout dire.
Ouais.
Mais il me parle souvent de ce que pensent les sociaux du Barça. Quand il est parti, Neymar, ils ont dit bon débarras, on veut plus te revoir. Il est là avec toute sa clique à faire les histoires, à ceci, cela dans le vestiaire. Parce que la dernière année du Neymar au Barça, c'est mal passé. Et les sociaux du Barça n'ont pas oublié. Ils veulent plus se
Mais c'est
voir
bizarre
là-bas.
parce que quand tu regardes les journaux, tout le monde dit, ah oui, il serait favorable pour un retour de Neymar, ce serait...
C'est Messi. C'est Messi
Ouais.
qui veut que. C'est Messi qui veut Neymar. Finalement, parce que. Et Bartomeu, comme il est dépendant de Messi, parce que Bartomeu, il a un nouveau mandat qui va arriver à la présidence du Barça. S'il ne fait pas les choix du leader fort de l'équipe, Messi est capable de retourner le public contre Bartomeu et ça va être un nouveau président qui va arriver, etc. Donc c'est des histoires politiques, tout ça. Après, un peu comme quand Florentino Pérez était pro-Zizou et qu'il fallait à tout prix que Zizou reste. Quand Zizou est parti, ça a été une catastrophe pour le Real. Il y a eu le changement d'entraîneur, c'était pas prévu du tout, quoi. Florentino Pérez a eu très très peur. Hein. Là encore,
Bah oui.
heureux, Zidane est revenu, mais tu sais pas dans quelles conditions ça va se dérouler là, parce que. Enfin, mais moi je pense que vraiment Messi. À la limite, si Messi a envie que Neymar revienne, il faut qu'il revienne dans un contexte où il y a la possibilité que financière déjà et l'effectif autour de Neymar est conséquent parce que là, le Barça, faut dire la vérité, c'est pauvre en défense. Hein.
Ah bah oui.
Et pour avoir vu encore une nouvelle fois Suarez en attaque,
Non mais
Suarez,
Suarez, lui, il régresse d'année en année, lui.
Et mais il a grossi. Mais
ouais, bah voilà, ouais, mais c'est pareil.
Le visage, il était, si on se souvient de Suarez, des images de lui en 2017, il avait le visage d'un cycliste vraiment affiné, etc. Bien taillé au niveau du visage. Là, on n'est pas loin d'être des Nazar, hein, je suis désolé. Mais bon, donc, sincèrement, après, tactiquement, le Barça a une façon de jouer qui est un peu contraire à son passé avec Valverde. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause Valverde par rapport à déjà ce qu'il a fait sur le terrain lors de la première journée avec Griezmann qui a été complètement gâché au niveau du...
Bah, il a été inexistant, mais c'est tout à fait normal. Il jouait pas à son poste habituel de toute façon. Donc,
Et cette équipe sans Messi ne fonctionne pas. Voilà, j'en reviens là.
Ah ouais. Mais faudra bien qu'un jour cette équipe fonctionne sans Messi, hein, parce qu'il va pas rester éternellement dans ce club. Hein.
Ouais. Et je sais pas que j'ai le sentiment que Messi veuille que Neymar prenne sa relève, mais il y a cette idée, je pense, dans la tête de Messi,
ouais,
qui veut passer le relais à Neymar pour le Barça. Mais j'ai du mal à le croire parce que quand tu connais les histoires entre Argentins et Brésiliens,
ouais,
j'ai du mal à voir le compte.
C'est pas l'amour fou non plus, quoi.
C'est pas l'amour fou non plus, donc j'ai du mal à comprendre l'obsession de Messi de faire revenir Neymar. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est soit Messi se sent esselé et fatigué par rapport à tout ce qu'il doit donner au club, et il a besoin d'un soutien, et s'il l'a pas, bah, on va peut-être voir la faiblesse de Messi sur certaines phases de jeu cette année, je sais pas.
C'est possible. Bon, alors, on a parlé de l'Espagne, on va parler de la Première Ligue aussi. Il y a eu pas mal de mouvements en Première Ligue, allez, qu'est-ce que tu peux nous sortir comme mouvement
Bah, Franck Lampard qui devient coach de Chelsea.
Ça a mal débuté, mais...
ça a très mal débuté, je trouve. Et d'ailleurs, il y a Mourinho qui s'est empressé justement de critiquer la politique du club de Chelsea pour expliquer qu'il ne suffit pas d'être un ancien grand joueur pour prendre les rênes d'un club.
Stéphanie Frappard, hein, c'est ça, l'arbitre française qui était au milieu de terrain. Bon, elle a fait son job, hein. Voilà, c'était la première fois qu'une femme arbitre arbitrait une finale de Super Coupe d'Europe, et même un match de Coupe d'Europe, je crois. Hein. Je suis pas bon. Alors après, mais je pense que ça aurait été n'importe quel arbitre, ils auraient sifflé penalty aussi. Hein. Mais bon, bah là, je vois pas à quoi servait la VAR, hein, parce que ça montrait bien qu'il y avait pas péno, quoi.
Bah, le problème qu'on a vu aussi avec le match de Monaco contre Lyon lors de la première journée, c'est vrai qu'on peut revenir à ça, c'est que j'arrive pas à comprendre. Alors c'est vrai que cette année, on a bien précisé que n'importe quelle main, qu'elle soit volontaire ou pas volontaire, mais par contre à partir du moment où elle est au-dessus des épaules, la main est sifflée. Et j'arrive pas à comprendre dans le match de Monaco comment on peut sortir un carton rouge après avoir donné un jaune déjà à vitesse réelle, en étant sûr que la faute était déjà agressive, mais que le jaune suffisait parce que le joueur s'est relevé, il n'y a pas eu de blessure grave, le joueur a continué le match. Pour moi, on met un carton rouge quand le joueur est blessé et sort du terrain. Pour moi, c'était ça la règle à l'époque.
C'est ça.
Je comprends pas comment on puisse mettre un rouge après avoir regardé la VAR, parce que la faute a déjà été sanctionnée. Pour quelle raison il a été voir la VAR? Là, je pense que c'est plus les arbitres qui sont dans le car ou dans les tribunes qui lui ont dit tu devrais aller voir parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être un rouge. Mais si déjà l'arbitre sur le terrain à vitesse réelle qui était très proche de l'action a jugé que ça suffisait d'un jaune, je comprends pas qu'on insiste de la part des arbitres qui ont influencé l'arbitre terrain pour modifier le carton. Moi, le problème que j'ai, c'est que le carton arrive au début du match. Et il n'y a pas de psychologie au niveau de l'arbitre. Il n'y a pas de tolérance. On est dans la première journée. Je comprends pas qu'on gâche, premièrement, le spectacle aux téléspectateurs.
Bah, en plus, c'était le premier match et ça n'a pas duré longtemps pour avoir un carton rouge, quoi. Tu gâches déjà le début de saison d'un club. Direct.
Déjà, ouais. Du club, c'est surtout ça. Ouais, ouais. La base du club. Mais t'as déjà sanctionné le joueur, mais laisse le match continuer, le joueur s'est relevé, il n'y a pas eu de blessé grave. Tout le monde a donné des coups un jour avec le bout du pied dans la cheville d'un autre, etc.
Bien mais sûr.
C'est pas pour autant que c'était un tacle agressif que comment dire, Fabregas a mis à l'attaquant. Voilà, mais j'arrive pas à comprendre sincèrement la façon dont comment dire, former les arbitres français par rapport à cette VAR. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une déshumanisation de l'arbitrage à cause de la VAR, de fait, et que les arbitres finalement ne servent plus à rien. Pour moi, on pourrait arbitrer dans ce contexte, pour moi, on pourrait arbitrer
sans arbitre.
Voilà. Sans arbitre. Je vois plus l'intérêt de
l'arbitre. Et qu'en fait, ils mettent des haut-parleurs dans le stade et qu'ils disent joueur numéro 9, vous avez fait faute, vous êtes expulsé. Voilà, juste ça, quoi. Ouais. Non, oui, mais, non, mais c'est ridicule, mais c'est, un jour, on va en arriver là, quoi.
Parce que l'intérêt pour moi d'avoir un arbitre sur le terrain, c'est de pouvoir parler avec les joueurs, d'avoir un dialogue, de comprendre les choses et d'avoir justement une vision différente d'un robot ou d'un ordinateur qui va te signifier un hors-jeu par un tracé ou une faute par une vitesse de l'impact dans l'agression, etc. Mais l'humain, il y a une autre façon de dialoguer avec l'humain. Et pour moi, si tu arbitres en tribune le match à la place de l'arbitre sur le terrain ou en lui disant « Tiens, viens voir, tu devrais mettre un rouge à la place », pour moi, l'arbitre terrain n'a plus,
bah ouais,
n'a
c'est plus ça.
Lieu d'être. Mmh. Pour moi, c'est le gros problème que j'ai avec cette VAR, c'est que voilà, déjà, ça casse le temps du match avec les arrêts de jeu, etc., qui sont de pire en pire, hein, faut dire la vérité. Parce que maintenant, même s'il n'y a pas faute, on te fait arrêter le jeu pendant 6 mètres ou une touche pour revérifier un truc qui a eu lieu il y a déjà 10 minutes. Donc, si la balle ne sort pas en jeu, bien sûr.
Mais bien sûr.
C'est vrai qu'un jour, on arrivera à un point où l'arbitre arrêtera le ballon pendant qu'il roule pour revérifier un truc, parce que le cas, c'est arrivé une ou deux fois en Italie, je crois, le cas où il y a eu un but après une faute qui n'a pas été sifflée parce que le ballon n'était pas sorti,
ouais,
en jeu.
C'était Empoli contre, je ne me rappelle plus quelle équipe, que le, ouais. Bah, y a une faute, elle n'est pas comptée, le mec il marque, et puis du coup ils annulent le but, et puis en fait ils ont sifflé pénalty pour l'équipe adverse.
Et je te dis, attends-toi à ce qu'un jour ça arrive à un grand club comme le Real, le Barça ou le Bayern ou Liverpool en Champions League, cette histoire, à leur rencontre. Dis-toi que la règle avec ces clubs-là va changer une nouvelle fois. On va arrêter le ballon pendant qu'il roule. Mais tant que c'est, parce que là, Empoli et je ne sais qui, là, c'est pas grave, hein, ça fait pas de bruit, tu vois.
Ouais, parce que c'est pas des gros clubs, quoi.
Parce que s'il faut se rappeler à quel moment est arrivée la goal line technology, c'est depuis l'histoire de 2010 à la Coupe du Monde où l'Angleterre avait marqué un but contre l'Allemagne et justement les Anglais avaient fait pression pendant plusieurs mois pour que la goal line technology soit mise en œuvre dans le championnat anglais, testée, etc. Et finalement, au bout de 2-3 ans, ils ont eu gain de cause. Jusqu'à la Coupe du Monde 2014 où ça a apparu, mais ça a mis du temps à arriver, mais je veux dire, il faut que ça arrive à des grandes équipes parce que les règles changent vraiment.
Ouais.
Enfin, bon, voilà quoi. On va pas s'attarder sur ça.
Non, parce qu'on parlait des transferts en Angleterre. À part David Luiz, on en a parlé tout à l'heure, qui passe de Chelsea à Arsenal. Peut-être Ryan Sessegnon, là, on en parle pas mal parce que c'est peut-être un joueur d'avenir qui passe de Fulham à Tottenham. Mais après, Il n'y a pas d'énormes surprises, quoi, en fait.
Ah, t'as Lo Celso qui part du Betis, ouais, pour aller à Tottenham. Maguire, le défenseur le plus cher de l'histoire de Manchester, ouais, United, qui a été transféré. Et apparemment, c'est un nouveau, entre guillemets, un nouveau crack qui est en équipe d'Angleterre pour Manchester. Ils veulent faire un peu comme Van Dijk qui a été pris à Liverpool. À l'époque, c'était le transfert le plus cher pour un défenseur. Et tout le monde s'était offusqué de ce transfert qui a été hors norme à l'époque. Et finalement, ils ont réussi à gagner la Champions League grâce à ce joueur-là. Mais il faut dire que moi, il faudra se poser quand même la question un jour. Parce que c'est vrai que là, l'Angleterre est dans l'excès depuis plusieurs années avec les droits télé qu'ils ont pour acheter des joueurs. On peut pas rivaliser avec eux. Mais si tu prends un défenseur à 90 millions d'euros pour gagner une Champions League, je veux dire, c'est la moindre des choses. L'Ajax, pour moi, avait plus de mérite à gagner cette Champions League avec des joueurs qui sortaient de nulle part.
Ouais.
Et moi, je trouve, franchement, l'année dernière, on a raté une finale Ajax-Liverpool qui aurait été.
Elle aurait été beaucoup plus disputée que le Tottenham-Liverpool.
C'est pas un mercato marquant.
Non, il n'y a pas de gros joueurs qui arrivaient. Alors peut-être qu'il va y avoir une surprise juste avant la fin du mercato.
Je te dis peut-être que des fois, si Bale vient pour faire partir Neymar, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que quand tu vois ceux qui sont arrivés, tu te dis, mais attends, ils veulent faire quoi cette année, le Paris Saint-Germain? Ils continuent leur quête pour la Ligue des Champions ou qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème.
Ouais. Bah, déjà l'année dernière, on avait soulevé le fait que... On pensait qu'ils avaient abandonné le fait de gagner une Ligue des Champions. Je pense que ça avéré juste. Hein. Mais cette année, je pense qu'ils veulent vraiment se concentrer sur le championnat et les trophées français. Jouer un coup en Ligue des Champions. Mais je les vois pas au niveau, tu sais. Il y a une année ou deux où Chelsea avait le moins bon effectif en Ligue des Champions. Et c'est cette année-là qu'ils la gagnent.
C'est vrai, ouais.
Mais je les vois même pas à ce niveau-là, moi, Paris. Parce que défensivement, ils ont pas cette solidité que Chelsea avait. Tu vois, c'est ça le problème. Chelsea était moins bon en attaque, on est d'accord, mais défensivement, il y avait toujours une solidité énorme. Parce que gagner la Champions League à Munich, à l'Allianz Arena, contre le Bayern, en finale, c'est quand même...
C'est pas rien, ouais, c'est pas rien, c'est sûr.
C'est comme si le PSG, là, ils allaient jouer contre le Barça ou contre le Real à Bernabeu, gagner la finale. Je le vois pas faire ça.
Ouais. Enfin, bref, bah ouais, voilà. C'est ça. Et toi, le retour de Leonardo, ça te fait quoi?
Pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais. T'as l'impression qu'il y a un peu plus de rigueur dans le club. C'est une impression. Hein. C'est-à-dire que tu la sens pas parce que Neymar est toujours là. On n'a pas réussi à vraiment à le recadrer. Il a toujours fait des déclarations, même quand Leonardo était là.
L'histoire, ça, c'est quand même dingue aussi de ça.
Pour moi, tu sais, ça revient à prendre un joueur portugais à Marseille et que le joueur portugais te dise ouais mon meilleur moment dans ma carrière moi c'est quand Vata a mis la main
c'est un peu ça ouais. Ouais c'est ça.
Mais le mec il te sort, on parlait de ça ce matin avec des collègues et on se disait mais attends, mais Neymar, imaginons il joue à Marseille, là à Paris il s'entraîne, il n'y a pas de problème, mais imaginons Neymar à Marseille, il te sort une déclaration comme quoi c'était son meilleur moment quand il a tapé l'OM son ancien club,
ouais.
Etc. Enfin, imaginons qu'il joue à Marseille, Neymar, non seulement il fout plus un pied à Marseille parce qu'il va se faire insulter.
Bah, il se fait défoncer, là, il se fait cambrioler, il se fait.
il fout plus un pied dans l'agglomération marseillaise, ouais. Mais non seulement il peut plus s'entraîner au club.
Ah bah
le club le fait s'entraîner à part.
Ah ouais, obligé. Non, mais c'est sûr.
À Paris, ça manque. Tu vois, on te parle d'une rigueur à Paris, mais c'est une blague parce qu'on sait très bien que. Neymar a une valeur financière, donc on peut pas le mettre.
Tu peux pas le mettre à l'amende. Voilà.
Tu peux pas. Par contre, ça aurait été Laurent Fournier ou Vincent Guérin, le mec, il serait déjà en procédure de licenciement.
Voilà, enfin, c'est sûr.
J'exagère.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est sûr. Non, mais c'est vrai.
Parce que. Ouais, tu te souviens de. On se souvient tous de comment. Bricage d'Orasso.
Bien hein, sûr.
Voilà, à Paris, ça avait tourné court. Hein. Enfin, bon. Mais si tu veux parler rapidement de l'OM...
Les années se suivent et se ressemblent, hein, de toute façon, on a bien vu le premier match qui était d'une... Bah, c'était exactement les mêmes matchs que faisait Marseille sous l'ère Rudy Garcia. Il y a peu d'arrivées. Alors Benedetto, c'est un joueur que je suis, hein, parce que moi, je le dis, je regarde le foot argentin, parce que j'adore le foot argentin. Benedetto, pour moi, c'est une bonne recrue. Beaucoup vont dire oh, il a 29 ans, c'est vieux et trucs comme ça. Non, pour moi c'est une bonne recrue parce que c'est un mec qui a le sens du but, c'est un mec qui peut être présent dans les grands rendez-vous, c'est un mec qui a joué à Boca, la pression à Boca elle est mille fois supérieure que ce qu'il y a à Marseille. Ouais. Et pour moi c'est une bonne recrue, mais c'est trop peu, il y a pas assez, il faut un latéral gauche, il faut dégager à ma vie, il a plus rien à foutre à Marseille, il est très mauvais à ma vie. Strootman, c'est l'ombre de lui-même de toute façon, il a jamais réussi à s'imposer à Marseille. Mais je sais pas s'il va y avoir d'autres arrivées, puis de toute façon Marseille avec le fair play financier, ben ils sont dans le rouge, donc va falloir faire peut-être avec les jeunes. Marseille a toujours eu des très bons jeunes, ils ont toujours réussi à faire éclore des jeunes, pourquoi pas le faire ici? De toute façon, on n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. C'est le moment ou jamais de faire confiance aux jeunes. Et puis pour moi, je te dis, Benedetto, c'est... Alors, il va peut-être lui falloir un petit peu d'adaptation, Mais moi, je crois que ce joueur peut faire du bien, à Marseille et planter des buts, quoi.
Oui, tout à fait. C'est l'objectif de Marseille, je pense. Il faut vraiment qu'ils se concentrent sur les jeunes cette année, parce que du fait qu'ils ne peuvent pas recruter, etc. Il y a vraiment une carte à jouer. Pour eux, c'est un... Je pense que c'est un bonus d'avoir un bon centre de formation, parce que c'est pas tous les clubs qui ont ça, et il faut vraiment que Marseille se ressaisisse en pensant intégrer des jeunes comme Lille a fait à un moment donné, comme même Strasbourg, tous ces clubs-là dont on parle pas forcément.
Ouais.
Strasbourg d'ailleurs qui s'est qualifié pour le prochain.
Bah, ce sera pour contre Francfort justement.
Ils vont jouer contre Francfort.
Mais qui sera pas du tout la même équipe que l'année dernière déjà, donc il y a une chance de passer.
Oui, ils ont une chance, c'est une bonne équipe Strasbourg.
Hein, ouais.
Ils ont battu Plovdiv en deuxième tour préliminaire, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est que pour la réserve de Marseille, c'est Philippe Anziani qui s'en occupe. Et Philippe Anziani, c'est un ancien professionnel de Division 1 qui a joué à Sochaux, Monaco, et trucs comme ça. C'était un très très bon joueur de football. Et je me demande si c'était pas occupé de Toulon à un certain moment. Il a joué aussi à Toulon. Et pour moi, c'est un gars qui peut justement faire en sorte que de trouver les bons jeunes pour cette équipe de Marseille. Mais voilà, tant qu'il n'y aura pas l'esprit à la lyonnaise de dire on met un mec qui a connu l'OM pendant longtemps. Pour moi. Un mec qui a connu l'OM depuis longtemps, il va se dire il va falloir prendre des minots dans l'équipe pour les faire jouer. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit dans l'esprit du club actuellement, quoi. Bon, après Marseille, on va passer à Nantes. Nantes qui joue d'ailleurs actuellement là, face à Marseille, qui voit une énième fois un nouvel entraîneur arriver. Il s'agit de Christian Gourcuff. Pour moi, c'est l'incompréhension totale. Encore une fois, le FC Nantes qui change d'entraîneur, c'est dingue. Mais c'est dingue. Mais comment tu veux qu'une équipe puisse avoir de l'avenir s'il change d'entraîneur tous les 4 matins, quoi?
Ouais. Bah le président Kita, à mon avis, il a des gros soucis. Il veut toujours. On sait hein, par le passé qu'il a toujours voulu prendre la place du coach. Et avec Veit, c'était obligé que ça aille au clash parce que Veit, c'est un caractère fort. Et là, tu prends Christian Gourcuff, qui est quand même un breton dans un club vendéen, c'est un peu compliqué, mais Christian Gourcuff, si je ne me trompe pas, il a entraîné Rennes aussi, c'est ça ?
Il a entraîné Rennes, ouais. Il avait entraîné Lorient il y a très longtemps, voilà.
Après, Lorient, il avait vraiment le rôle de manager comme Wenger pouvait l'avoir à Arsenal. Il faisait tout, quoi.
Il avait les clés du club, quoi.
Les clés du club, et je pense que Christian Gourcuff, c'est quelqu'un qui analyse tout, qui a besoin de connaître les joueurs par cœur, etc. Et si Kita est dans les parages, toujours en train de court-circuiter ce qu'il fait,
il va partir aussi.
Il va partir. Et Christian Gourcuff, c'est un caractère fort, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va ruminer dans son coin les mauvaises décisions dans son dos. Et à un moment donné, il va partir au clash, mais il ne reviendra plus, quoi. Et du jour au lendemain. Et malheureusement, je pense que ça ne fonctionnera pas avec ce coach non plus. Il aurait fallu quelqu'un de plus, influençable par la présidence. Là, il va avoir des soucis encore. Et moi, je ne donne pas plus longtemps que mois de décembre pour que ça parte un peu dans tous les sens, à mon avis. Surtout dans la presse, hein. Tu sais que Kita, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et il dit pas tout au coach, etc. On parle surtout des transferts, des choses comme ça qui sont faites dans le dos des coachs.
Ouais.
Je me souviens de Vaïd qui avait vu des joueurs partir à lui, dont Emiliano Sala qui est parti alors qu'il n'avait jamais demandé à ce qu'il soit vendu. Enfin, on fait des choses qui sont pas nettes à Nantes. Plus pour le côté commercial et pas pour le côté sportif. C'est un club qui stagne depuis des années à cause de cette présidence. C'est vrai que Kita peut-être a sauvé le club à un moment donné parce
oui, c'est tout à son honneur, mais voilà, au bout d'un moment il faut peut-être laisser quartier libre aux entraîneurs. Ben là, ça fait quand même beaucoup. Il avait quand même un très bon entraîneur, là, l'ancien entraîneur de Porto. Comment c'était Sergio Conceição.
Ouais,
même Claudio Ranieri. Mais comment le mec, il fait venir une star quand même. Et le mec se barre parce que voilà, ça va pas, ça colle pas. Donc il y a un gros problème. Et je pense que là, les supporters, ils en ont marre de chez marre de leur président qui, bah, il fout en l'air le club. Ils ont un beau jouet, mais à chaque fois, ben il y a tout ce qui est fait. Enfin, ça marche pas, quoi.
Et d'ailleurs, ce projet de stade, il a été abandonné.
Eh ben alors, je sais pas qui s'il a abandonné, mais pour le moment, il est mis de côté, ouais.
Ouais.
On en avait parlé déjà il y a un petit moment,
ouais.
Mais il y a beaucoup de joueurs maintenant, ils partent vraiment n'importe où. Regarde le cas de, comment il s'appelle, le joueur de Saint-Etienne là, qui avait joué à Marseille. Cabella, donc, qui a joué à Marseille et qui a joué à Saint-Etienne, qui part au FC Krasnodar. Voilà.
Oh là 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 là.
Où est l'enjeu là-dedans, là, sans déconner? Mais comment tu peux quitter Saint-Etienne? Alors, quitter Saint-Etienne, d'accord, il a envie de jouer ailleurs. Mais partir à Krasnodar, t'as lui, t'as le joueur Crivelli, l'ancien joueur de Caen. Ouais, il est parti de Caen, il est parti jouer en Turquie, mais un club de seconde zone de Turquie, quoi.
Ouais, mais après Crivelli, il était pas bon.
Ouais, il était pas forcément bon, mais est-ce que tu crois pas qu'il y avait un autre d'autres clubs? Et là, on va parler de Falcao qui va peut-être aller à Galatasaray. T'as Steven Zonzi aussi qui est parti à Galatasaray. Bon, il y a peut-être un peu plus d'enjeux quand tu joues à Galatasaray, mais bon, quand même, je sais pas, est-ce que la Turquie, c'est un bon choix de carrière maintenant? Je sais pas, je...
Non, mais sans rire, je pense que le championnat de Turquie a progressé depuis un petit moment, et on a souvent vu des clubs faire des quarts de finale
c'est
à
vrai.
Galatasaray, etc., en Champions League.
Beşiktaş aussi, je me souviens.
Tu as les infrastructures qui ont été
qui
largement
sont pour.
Améliorées
ouais.
Avec des nouveaux stades en Turquie, les vieux stades en bois, etc., avec les traquenards et les guet-apens du vieux stade de Galatasaray ou de Beşiktaş, c'est terminé. Et ils ont tous des super beaux stades hyper modernes aujourd'hui. Et sincèrement, je pense que c'est assez attrayant par rapport à l'argent qu'il y a, parce que je pense qu'il y a un peu plus d'argent. Par contre, il faut dire que dans des clubs, voilà, t'as des joueurs qui sont pas payés. Ça, c'est les... voilà, pendant 3 mois, t'es pas payé.
Bah voilà, c'est le risque. Témoignage. Mais qui a vraiment réussi à s'imposer en Russie? Peut-être à part ceux qui ont joué au Zénith Saint-Pétersbourg.
Ah, si tu veux parler de Malcolm aussi, ouais, on peut parler rapidement de Malcolm qui est un joueur qui a été transféré du Barça.
Il doit s'en mordre les doigts maintenant. Hein.
Et en fait, là, ce qui s'est passé avec ce joueur-là, c'est que bon, c'est un joueur de couleur, un Brésilien qui a joué à Bordeaux. Et il s'est retrouvé transféré au Zénith pour continuer sa carrière,
ouais.
tout bêtement. Et en arrivant au club, lors de sa présentation du premier match, des supporters l'ont hué en disant clairement à la direction qu'ils ne voulaient pas de joueurs de couleur dans leur club. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Zénith a dit au Barça, est-ce qu'on peut vous renvoyer le joueur? Est-ce que tu as déjà vu ça dans le
Mais
football,
ce qui est totalement dingue, parce que tu as quand même Hulk qui a joué, tu as Witzel qui a joué. Ils sont pas blancs, ils sont métissés, voilà. Et ouais. je vois pas le pourquoi sortir ça, quoi. Et bon, écoute, voilà. Hein, donc, à mon avis, il doit s'en mordre les doigts maintenant, parce qu'il va essayer de... soit de jouer quand même, soit de se faire prêter et de finir son contrat en étant que prêté, quoi. Qu'est-ce que tu veux jouer dans un club où t'es sûr que tu vas pas être accepté, quoi? Ça sert à rien.
C'est quand même dingue, hein, parce que c'est un joueur qui avait une carrière assez bonne promise au Barça. Il a souffert de la tactique de Valverde en faisant des bouts de match. Il a jamais pu s'imposer vraiment. Dembélé est arrivé après, enfin en même temps pratiquement, et donc du coup avant lui même, je crois.
Avant lui, ouais, un an avant, ouais.
Avant lui, et il joue au même poste, donc finalement Dembélé est meilleur, il a été champion du monde, etc. Et Valverde, on voit que c'est pas un coach exceptionnel au niveau tactique, hein. Sans Messi, il est pas grand chose. Donc Malcolm n'a pas eu son... Je veux dire, il est arrivé au Barça au mauvais moment. Je pense qu'avec un Guardiola, peut-être Malcolm aura pu faire une carrière différente au Barça. Et là, se retrouver au Zénith dans un club raciste avec les supporters. Il faut se poser la question aussi, tout bêtement, c'est que est-ce que depuis la fin de la Coupe du Monde de 2018, le racisme n'est pas...
Il est parvenu parce que on nous avait montré une Coupe du Monde... entre guillemets propre, mais quand tu vois que quand il y avait eu Russie-France, il y avait eu des gros soucis de cris de singe dans les tribunes, Bon, est-ce que là, y a pas, on n'a pas essayé d'enlever les mauvais supporters et puis voilà. On peut se poser des questions et tout connement maintenant, comme par hasard, le racisme revient dans le stade. Bah, c'est qu'il y a eu quelque chose de fait pour faire croire que la Coupe du Monde était propre, quoi.
Exactement, t'as exactement dit ce que je pensais.
Eh ben écoutez, on va se quitter sur ces paroles-là. Bah écoute, merci d'avoir participé à ce podcast. Alors, je sais pas si on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, il y a un podcast qu'on pourra faire, c'est sur le tirage de la Ligue des Champions, qui se tirera le 29 août, donc jeudi dans 2 semaines. On pourra discuter du groupe du PSG, de Lille,
ouais.
Hein, et puis de Lyon aussi, bien sûr, parce que Lyon est qualifié aussi.
Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on pourrait le faire en direct comme on l'a fait une année. Ouais.
Voilà. Eh ben écoute, merci à toi et puis bonne fin de vacances à tout le monde et à très bientôt sur la bande à Baggio. Salut à tous.